Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis d'être avec vous ce matin pour une table ronde qui va porter sur le corps univers. J'ai l'immense plaisir de vous présenter mes trois invités avec lesquels nous allons passer une heure à découvrir le corps et surtout l'intérieur de ce corps que nous avons tous. Et je vais commencer par présenter Marc-André Sellos, professeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, professeur à Gdansk, spécialiste des microbes, et qui vient de publier il y a très peu de temps un livre qui s'appelle « Jamais seul ». Et comme vous allez le voir, dans très peu de temps, nous ne sommes jamais seuls. À ses côtés, Michel Neunlist, directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste des relations entre l'intestin et le cerveau. Et vous allez voir que c'est assez passionnant. Et puis enfin, Jim C. Hines, auteur de fantasy, traduit depuis peu de temps à l'Atalante. Vous aurez l'occasion de découvrir ses ouvrages en librairie tout de suite après cette conférence. Jim est un auteur de fantasy, s'est beaucoup amusé avec les livres Magic Ex Libris s'amuse aussi avec les gobelins, et il nous parlera un petit peu de tout ça et des relations avec le corps, les corps et les transformations des corps. Donc nous allons beaucoup nous amuser ensemble, en tout cas c'est notre objectif pour cette heure. Et je vais laisser la parole à mes invités en lançant une première question. Quand on parle de corps univers, évidemment, on a tous l'idée de l'univers qui est l'univers extérieur. Alors, est-ce que cette métaphore se justifie? Et si oui, en quoi?
Ok, alors, d'une certaine façon, oui, car nous sommes multiples, nous sommes habités, nous avons plus de micro-organismes dans notre corps que de cellules dans notre corps, de cellules humaines dans notre corps. Donc oui, il y a du monde à l'intérieur, ça boue, il y a des relations, il y a des interactions qui se passent bien, il y a des guerres, il y a des coopérations, des alliances, donc tout à fait. Mais il y a un détail, c'est que l'univers, il est fini. Enfin, je veux dire, il est fini. On ne sache pas qu'il échange avec autre chose. Or, nous sommes quelque chose d'habité, mais les habitants, ils rentrent, ils sortent. En fait, nous sommes un petit peu une salle ouverte où des microbes rentrent, notamment par l'alimentation ou par le contact. Je viens de prendre des microbes sur mon voisin. Qui sont maintenant sur ma peau. D'autres sortent, je ne vous dis pas comment sortent ceux du tube digestif, vous voyez très bien à quoi je pense, mais quand je frotte ma main ou quand je prends une douche, il y a aussi un certain nombre d'habitants qui sortent et nous sommes en communication perpétuelle avec l'extérieur. C'est un mouvement perpétuel, un ballet de recrutement, disparition. Et ça s'appelle un écosystème, un système complexe fait d'interrelations, mais qui est ouvert sur ses voisins, sur ses pareils, qui est ouvert à l'extérieur. Moi, je dirais plutôt qu'on est un écosystème.
Il fallait que j'allume, voilà, c'est bon. Eh ben, je partage totalement cette opinion, et c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que non seulement, et c'est une des révolutions à mon avis de la recherche médicale actuelle, c'est que finalement nos corps ne sont pas simplement constitués d'organes qui fonctionnent l'un d'un côté de l'autre, indépendamment les uns des autres, mais que finalement notre santé, nos maladies sont de plus en plus des maladies de plusieurs organes sur lesquels finalement notre environnement, en particulier l'environnement microbien, bactérien, viral, les champignons qu'on porte sur toutes les surfaces d'échange avec notre environnement, joue un rôle essentiel dans la construction de notre santé et dans nos maladies. Et je pense qu'on pourra en discuter peut-être de manière plus approfondie sur finalement la capacité, les découvertes récentes qui montrent que l'environnement, l'alimentation, nos microbes du tube digestif sont capables bien sûr de faire fonctionner correctement notre intestin, mais aussi d'influencer sur nos émotions, le fonctionnement de notre cerveau et nos maladies.
Am I on? Okay. I am not a scientist. As Estelle said, I mostly make things up for my books. But in talking about the body as universe, my initial reaction is, no, I'm not a universe. I am me. Je suis moi. But thinking about it more, thinking especially about disease, and looking back over my personal experience, I'm diabetic. I was diagnosed 20 years ago. And just looking at the way that change in the pancreas changed who I was. It, you know, when my blood sugar was out of control, my personality changed. I almost became a different person. And I want to think, no, I am me, I am stable, I am individual. But it was humbling to realize that a little change in the chemistry or in the microbes can affect the whole ecosystem and can change what I think of as me, as the individual.
J'ai du mal avec le micro, pardon. Et effectivement, cette question de savoir est-ce qu'on y soit, est-ce qu'on est finalement uniquement nos gènes, nous amène finalement aussi à se rendre compte que ces gènes sont effectivement hérités de nos parents, mais de plus en plus, un des concepts qui émerge, c'est qu'on hérite aussi l'histoire de nos parents, c'est-à-dire l'environnement dans lequel ont vécu nos parents se transmet à travers les générations. C'est-à-dire qu'on est à la fois les gènes de nos parents, mais on est aussi l'univers dans lequel ont vécu nos parents. C'est un peu ces avancées sur l'épigénétique qui permettent de se dire, voilà, on hérite un peu le passé, ce qui doit permettre aussi de responsabiliser, de nous donner une responsabilité supplémentaire en tant que parents, de vivre dans un environnement qui est préservé, parce qu'on va le transmettre dans nos gènes aussi à nos enfants et à nos descendants.
Et alors, bon, on va sans doute reparler beaucoup de la façon dont les bactéries déterminent le bon ou le mauvais, dans certains cas, selon que les habitants sont d'un type ou d'un autre, fonctionnement de notre métabolisme, de notre comportement ou de notre système immunitaire. On va en revenir là-dessus, mais il y a un truc qui apparaît déjà nettement, puisqu'on parle d'héritage, c'est qu'en fait, cette histoire-là commence quand nous sommes dans le ventre de notre maman, alors même qu'à ce moment-là, nous sommes pratiquement, il y a une controverse, mais très largement non colonisé par des microbes, les microbes qui sont chez nous, dans notre mère, commencent à modifier la façon dont nous développons, la façon de... dont, par exemple, on a des souris qu'on arrive à élever sous bulles, donc les mamans n'ont pas... C'est des bulles complètement stériles, les mamans n'ont pas de bactéries, et on voit que ces souriceaux, l'expression des gènes dans leur cerveau n'est pas le même... Parce que des souriceaux normaux, parce que leur mère n'a pas de bactéries. On a aussi des. Alors là, c'est plus intéressant parce que ça commence à montrer des choses opérationnelles. On sait, par exemple, que quand on donne à des mamans, c'est une vieille expérience puisqu'elle date des années 80, hein, c'est un truc réalisé en Finlande, quand on donne du yaourt ou un placebo à des mamans enceintes, les enfants qui naissent ensuite ont, quand la mère a vraiment reçu du vrai yaourt, donc avec des bactéries du yaourt dedans, 50% d'eczéma en moins, la fréquence d'eczéma est réduite d'un facteur 2. Donc en fait, les bactéries sont aussi une partie de ce qu'on hérite et leur influence s'exerce bien avant même qu'elles nous aient atteintes.
Et c'est vrai que là, c'est vrai que les bactéries, on les a dans notre tube digestif, dans notre intestin, mais on les a aussi effectivement dans beaucoup d'autres surfaces qui sont exposées à notre environnement, que ce soit dans les poumons, que ce soit dans le nez, que ce soit dans des endroits plus peut-être plus intimes auxquels vous pouvez penser peut-être. Ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, malgré tout, si on reste d'un point de vue évolutionnaire, le premier organisme qui a été exposé à ces bactéries, c'est peut-être effectivement aussi notre intestin. Pourquoi ? Parce que finalement, l'intestin, toute la vie s'est construite autour de l'intestin. Parce que la fonction principale de tous les organismes, que ce soit les bactéries, que ce soit les organismes pluricellulaires très simples, comme des vers, des nématodes, c'est de trouver l'énergie nécessaire au fonctionnement de ces cellules. Et qui mieux que l'intestin joue ce rôle d'absorber les nutriments ? Et toute la vie, donc la complexité des organismes s'est construite autour de ce tube digestif, parce que quand vous prenez des espèces très très simples, vous n'avez qu'un tube digestif. Par exemple, les anémones de mer, les méduses, sont des organismes qui n'ont même pas de tube digestif constitué, mais qui sont simplement des plaques de tube digestif qui doivent absorber les nutriments. Et dans ces cellules déjà très très primitives, qui étaient exposées à l'environnement, ont aussi été exposées, bien sûr, aux bactéries qui ont permis finalement à ce tube, puis aux autres organes qui sont construits autour évolutionnairement. Le cerveau est apparu bien plus tardivement, les poumons, le cœur aussi, que finalement ces bactéries qui ont permis de construire la vie d'un point de vue évolutionnaire, mais aussi dans notre évolution à nous finalement, construisent ce corps via, dans ce cas-là, la mère, pas la mère dans laquelle sont nés ces organismes très, très primitifs, qui est aussi la source de la vie, mais aussi notre mère à nous, qui a des bactéries qui permettent la construction de notre tube et de tous les autres organes.
Jim, quand vous écrivez des romans où on parle de dryades, où on parle de symbiose avec des végétaux ou des animaux, est-ce que ce sont des choses qui rentrent dans vos préoccupations, ou alors c'est juste l'imagination, ou est-ce que ça vous inspire typiquement des éléments à introduire dans des romans?
It depends on the book. There's definitely in the goblin books. You talk about the importance of the intestines, of that primary function, and that fits very well because my goblins, all they want to do is eat everybody, so that fits. But I've started switching to science fiction, writing a trilogy set after the zombie apocalypse, in the future, humans and aliens and so on. And yet, one of the questions that comes up is that micro level of interaction. It's not just me, the human, and you, the alien, talking to each other. It's me and all of my little germs, and you and all of your alien germs, not you personally. But how does that interaction work? How does, part of what sets the book off is the aliens have evolved their own microorganisms, their own defense mechanisms, their own toxins, and how does that interact with humans? What does that do to us? Spoiler, it's not good. But yeah, there's definitely having to think about all of these different alien species. How did they evolve? What is their micro universe, how does that work, if you would?
Et il y a aussi quelque chose qui est important, hein, c'est que ce qui compte, c'est la relation et pas l'objet de cette relation. Je m'explique. On a des tas de microbes qui sont connus comme microbes défavorables, hein. Je pense au staphylocoque doré. Ça fait des gros boutons blancs, mais ça peut aussi faire des infections un peu plus ennuyeuses. Et puis, il y a des gens qui en sont atteints de façon systémique dans tout l'organisme et qui en meurent lentement, en fait. Donc, ça peut tuer. Bon. Mais ça, ces ennuis-là n'arrivent qu'à 0,05% de la population. Cela dit, dans cette salle, un d'entre vous sur cinq est porteur de staphylocoque doré. Et pourquoi il n'est pas malade? Ça veut dire que ça montre bien que le problème n'est pas le staphylocoque doré en lui-même. Mais c'est autre chose. Et c'est quoi? C'est qu'en fait, pour la plupart d'entre nous, le staphylocoque doré se trouve pris dans la glu visqueuse pour lui d'une communauté extraordinairement diverse dans laquelle il n'arrive pas à faire autre chose que survivre. En l'occurrence, pour les muqueuses nasales, je crois que c'est des collègues de l'INSERM qui ont montré ça à Lyon. Pour la muqueuse nasale, il y a un autre staphylocoque qui s'appelle... Alors, ils l'ont appelé le staphylocoque de Lyon parce qu'ils étaient lyonnais, voilà. Ce staphylocoque qui est dans la muqueuse nasale, hein, dans le nez, produit un antibiotique qui empêche de grandir ou qui fait même exploser de temps à autre les staphylocoques dorés. Du coup, ils sont là, les staphylocoques dorés, mais ils sont entourés d'une communauté où il y a notamment des trucs comme ce staphylocoque de Lyon qui les empêchent de proliférer. Ils sont régulés. Et donc, ce qui compte, c'est les relations qui s'établissent dans l'écosystème microbien qui nous habite et avec nous, plus que qui est là. La question, c'est pas est-ce qu'il y a des méchants ou pas, parce qu'ils ne sont pas essentiellement méchants ou bons, d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire, c'est quel est l'état des relations, quel est l'écosystème qui fonctionne là.
Where were you when I was writing the first book? I could have had...
Swimming pool.
I could have had, the alien toxins, and we fight it with nasal mucus. Next book.
Et peut-être pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, c'est vrai que les maladies apparaissent pas forcément parce qu'il y a une mauvaise bactérie qui est là, mais parce qu'il y a une absence de bonnes bactéries, ou au contraire, ce qui ressort de plus en plus, c'est que les maladies sont souvent associées avec une perte de la richesse, de la diversité des bactéries, ce qui permet à certaines populations de prendre le dessus et de développer la maladie. Et je pense que ça, c'est un enjeu majeur qui est probablement commun à tous les écosystèmes, et je pense que vous êtes plus spécialiste que moi là-dessus, c'est la santé, et la santé d'une civilisation au sens large, hein, tient de sa diversité. Et lorsque finalement on aboutit à une, pour des raisons X, Y, à une perte de cette diversité, cette perte de cette richesse bactérienne, eh bien, on est beaucoup plus susceptible à des maladies. Ça ne va pas probablement être la cause unique de la maladie, mais ça va augmenter notre susceptibilité à des environnements qui vont finalement causer, dans des périodes clés de la vie, et je pense qu'on pourra en reparler, c'est vrai qu'il y a des fenêtres d'exposition de la vie et que la fenêtre de développement de tous les organismes est une fenêtre extrêmement sensible pour programmer soit notre santé future, soit pour programmer nos maladies. Et c'est vrai que les bactéries vont être un des éléments qui nous habitent, qui vont permettre de programmer notre santé future et nos maladies futures.
I love that metaphor. I love that idea because a lot of what I write about, both in the books and online and blogging, is the importance of diversity of culture, of people. That a civilization that is homogenous is less healthy than one that is more diverse, that has more interaction, more exposure and counter-exposure. And I'm going to take this back, and my next blog post will be, society is just like the human body. If it is diverse and you have all of these multiple bacteria and microorganisms, you're more likely to be healthy. So thank you for that.
Mais alors ça c'est vrai parce que bon, on a quand même dans l'histoire des dizaines de sociétés qui ont bâti des murs parce qu'elles pensaient pouvoir exister en elles-mêmes et s'opposer à l'entrée des autres, et elles ont tout un point en commun, c'est que leurs murs sont des objets touristiques que visitent des gens qui ont remplacé ces civilisations-là, que ce soit en Chine ou que ce soit l'Empire romain. De toute façon, les gens qui sont là maintenant, c'est les descendants des envahisseurs. Et donc, le métissage et l'ouverture à l'extérieur est la base du système. Et c'est pour ça que je n'aime qu'à moitié la métaphore de l'univers. En partie, elle dit des choses, mais elle crée une clôture opérationnelle. Et en fait, ce que les découvertes récentes montrent, c'est qu'il n'y a pas d'organisme. Il n'y a que des interactions, et là-dessus, il y a des processus qui s'opèrent bien ou qui ne s'opèrent pas bien. Il n'y a pas de clôture opérationnelle. Il n'y a pas de mur autour d'une civilisation, de la même façon qu'il n'y a pas de limite continue absolue autour d'un organisme. C'est la même histoire, c'est celle de la vie qui est relation, même entre espèces.
Et alors, je vais rebondir là-dessus, parce qu'on parle d'organes, enfin, en tout cas... Moi, quand j'étais petite, j'ai appris qu'il y avait le cerveau qui pensait, il y avait l'intestin qui s'occupait d'un certain nombre de choses, il y avait le cœur qui battait. On m'a même expliqué que pour les Grecs, la pensée, le lieu de la pensée, c'était le cœur, et qu'on était passé au cerveau. Et puis maintenant, on me dit, mais non, c'est le cerveau, oui, mais pas que. Et on en a un deuxième, alors ça, c'est aussi une métaphore, j'imagine, mais justement, j'aimerais bien que Michel, vous nous expliquiez un petit peu où on en est.
Oui, après, donc, c'est vrai que pour moi, enfin, après, j'ai un conflit d'intérêt parce que je travaille sur l'intestin. Donc, dire que l'intestin, c'est un deuxième cerveau me convient bien. Mais je pense qu'il y a quand même des substrats déjà anatomiques. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'intestin un deuxième cerveau? C'est d'une part parce qu'il contient dans le tube digestif, vous avez les mêmes éléments que vous retrouvez dans le cerveau, c'est-à-dire que vous avez des neurones, ce qu'on appelle des astrocytes aussi, qui sont un peu les cellules qui permettaient de distinguer Einstein de moi, par exemple, parce que Einstein était intelligent, pas parce qu'il avait plus de neurones, mais parce qu'il avait plus d'astrocytes, donc plus de connectivité neuronale, plus de connexion entre les neurones. Donc plus on est intelligent, plus on est riche en connexions neuronales. Je simplifie un peu, mais c'est un peu ça. D'un point de vue évolutionnaire, oui, c'est partiellement c'est vrai. Et donc pourquoi l'intestin un deuxième cerveau? Parce qu'effectivement, non seulement il contient un réseau de neurones, 200 millions de neurones à peu près, au sein de votre intestin, des neurones qui sont issus de ce qui va donner votre cerveau, qui très tôt se détache finalement des cellules décrètes neurales, de la plaque neurale qui va devenir votre cerveau, qui au bout de 7 semaines après la conception chez les humains, l'ensemble du tube digestif est colonisé par ce système nerveux qui permet à cet intestin de fonctionner. Donc ce système nerveux de fonctionner à la naissance justement pour remplacer le rôle de la mère, c'est-à-dire nous nourrir et permettre aux autres organes de se développer. Et donc, il est un deuxième cerveau parce qu'il a des neurones, mais on appelle aussi l'intestin un deuxième cerveau parce que on se rend de plus en plus compte qu'il est en contact, en connexion avec le cerveau, soit direct. Vous avez, par exemple, le nerf vague qui relie l'intestin au cerveau, et environ 80% de l'information qui traverse ce nerf vague, c'est un gros câble électrique qui relie en gros votre cerveau à l'intestin, et bien finalement remonte de l'intestin vers le cerveau. Donc ce n'est pas le cerveau qui contrôle l'intestin, parce qu'il a son propre système nerveux, il peut l'influencer, mais pas le contrôler. Mais en revanche, l'intestin est capable aussi de ne pas contrôler le cerveau, mais de l'influencer. Et finalement, ce système nerveux, ce gros câble électrique qui part du cerveau, qui atteint l'intestin, va être sensible à différents facteurs. À la fois, il va être sensible au bon fonctionnement de l'intestin propre, mais aussi à ce que l'intestin reçoit, ou le réceptacle de ce qu'il y a dans l'intestin, que ce soit des nutriments, ou là, ce qui nous intéresse, un peu des bactéries, des virus. Et finalement, comment communiquent les bactéries avec le cerveau, mais aussi avec les autres organismes? C'est qu'effectivement, soit les bactéries contiennent certaines parois de la membrane bactérienne sont capables d'être détectées par les neurones, soit ils produisent des substances, des métabolites, qui vont aussi être reconnus par ce système nerveux et influencer des zones qui sont en contact, que ce soit des zones principalement associées initialement, qui sont communes à toutes les espèces animales, des zones qui sont en lien avec la recherche de l'alimentation, parce que finalement l'intestin et le cerveau ont évolué ensemble pour répondre à ce besoin primitif. Donc c'est un peu tout ce qui est l'orientation spatiale, l'hippocampe, l'anxiété. Quand vous alliez manger autrefois, si vous étiez face à un prédateur, il fallait s'enfuir, donc l'amygdale reste très connectée. Et donc on comprend bien pourquoi, lorsque des fois on a des troubles intestinaux, on a aussi des troubles du comportement, parce que les deux organes sont associés. Mais il y a aussi d'autres structures beaucoup plus complexes, comme les structures qui interagissent, les zones d'apprentissage du langage, nos interactions sociales, qui peuvent être influencées par l'intestin via les microbes, la nutrition, l'aliment au sens large.
Alors on peut donner un exemple d'ailleurs de ça, c'est l'exemple de ces souris. Ces lignées de souris, où dont certaines sont très audacieuses, elles explorent beaucoup l'environnement, d'autres au contraire sont plutôt timides, elles ont tendance à rester dans les coins, à fuir beaucoup plus la lumière que les premières. Et on s'aperçoit que quand on transfère les bactéries du tube digestif de ces souris audacieuses ou timides, je les ai appelées comme ça à dessein, à des souris qui n'ont pas de microbes, ça va orienter le comportement de ces souris receveuses vers des comportements plus exploratoires ou moins exploratoires. Et quand on coupe le fameux nerf vague de ces souris avant de leur donner les bactéries, ça modifie beaucoup moins ou pas du tout leur comportement. Ça veut dire qu'effectivement, ce nerf-là transmet des choses depuis les bactéries que reçoit la souris qui n'en avait pas. Ça transmet des choses depuis ces bactéries vers le cerveau. Et ça montre aussi une chose. Parce que des fois, on a dit, ah oui, alors, du coup, nous sommes que des marionnettes aux mains de nos bactéries, ou de nos microbes en général, puisqu'il y a quelques champignons qui traînent là-dedans. C'est pas exact. Tout est interdépendance. Et ça, c'est le truc important. C'est là qu'il faut refocaliser la chose. C'est pas A qui manipule B. Évidemment, elle modifie le comportement de ses souris, mais en même temps, ces bactéries-là, s'il n'y avait pas un tube digestif de souris, elles seraient pas là. Elles pourraient pas survivre. Elles supportent pas l'oxygène, elles auraient pas à manger. Tu l'as dit, l'intestin, c'est un festin pour les bactéries. Donc, c'est là qu'elles mangent, c'est là qu'elles vivent. Donc, on est vraiment dans une dépendance réciproque. Et c'est finalement l'interaction intestin, nerf vague, bactérie qui crée le comportement plus que l'un ou l'autre.
Et pour compléter, effectivement, il y a des données qui montrent qu'on a exactement le résultat inverse en fonction de la souche du fond génétique de souris. C'est-à-dire, il y a effectivement, et ça montre que c'est finalement une interaction, c'est-à-dire chez les souris qui ne sont pas par nature anxieuses, eh bien, on a plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que le microbe va plutôt l'absence de microbes chez ces souris bulles un peu vont augmenter leur anxiété. Donc ça montre bien que nos gènes sont aussi un élément central dans le contrôle des bactéries qu'on va pouvoir accueillir. Et un des meilleurs exemples aussi qui démontre ça, c'est parce qu'il y a un vrai enjeu, c'est de savoir quel est le bon microbiote. Est-ce que ça existe, la définition d'un microbiote sain, du bon microbiote? Et on s'est rendu compte que finalement, un des plus grands facteurs prédictifs du bon microbiote, c'est-à-dire on a fait des études, on a voulu voir chez des personnes saines, qu'est-ce qui était associé avec la capacité d'avoir le microbiote le plus sain? Quel était le vrai critère, le vrai marqueur du microbiote sain? on s'est rendu compte, donc, dans des études cliniques, on a suivi leur histoire, est-ce qu'ils ont eu des antibiothérapies, est-ce qu'ils prenaient des médicaments, qu'est-ce qui était capable finalement d'influencer le plus ce microbe. Et finalement, ce qui influence le plus le microbe, c'est finalement ce qu'on appelle l'échelle de Bristol. L'échelle de Bristol, c'est une échelle qui va de 1 à 7, et elle correspond à la forme de votre caca, schématiquement, de vos selles. C'est-à-dire, en gros, plus vous avez un transit rapide, plus votre selle est liquide. Et on se rend compte que le vrai marqueur d'un bon microbe, c'est une échelle de Bristol d'environ 5. Ça correspond à des cacas en forme de saucisse. Donc pas forcément saucisse de Francfort, mais voilà, semi... voilà. Donc ça montre bien que c'est finalement... Vous êtes aussi maître de votre microbe. Et votre transit, l'état de santé de votre organe va aussi influencer de manière très importante sur la santé de votre microbiote.
I am learning so much from you too.
Est-ce qu'on va pouvoir dire un jour que si on est de mauvaise humeur, c'est à cause de notre intestin ?
Il y a déjà un nom commercial pour ça. Vous avez entendu parler des probiotiques, je pense, hein, qui sont ces bactéries que l'on peut prendre pour s'inoculer une flore favorable, enfin un microbiote favorable, je veux dire, notamment après une antibiothérapie. Ça marche d'ailleurs pas encore en routine, en réalité, c'est pas si simple. Mais on a aussi dans le commerce, notamment aux États-Unis, des psychobiotiques, c'est-à-dire des bactéries réputées améliorer l'humeur. Cette histoire-là, elle est complexe, parce qu'il y a sans doute une réalité derrière, mais je ne suis pas sûr qu'il y a encore des souches dont on soit vraiment sûr de l'intérêt pour ça. Après l'inondation de Walkertown, au Canada, il y a des gens qui ont bu de l'eau souillée, parce qu'il n'y avait plus d'eau potable à boire, voilà. Et il y a des gens qui ont développé, après des grosses diarrhées, et après que tout soit rentré dans l'ordre et que leur maison était retapée, 2-3 ans après, ils ont été des états dépressifs profonds, qu'on a attribué au fait qu'ils avaient attrapé une campylobactère, une bactérie qui, quand on l'administre à des rats, leur donne des syndromes dépressifs. Alors la dépression d'un rat, ça se mesure de la façon suivante, c'est pas évident. Hein. On le met à se noyer, on ne le laissera pas se noyer. Mais on regarde en 5 minutes combien de temps il se débat. Et plus il se débat longtemps, plus il est réputé en bonne forme. Et moins il se débat longtemps, plus il est dépressif. Quand vous lui donnez des anxiolytiques, il se débat plus longtemps. Quand vous lui donnez des anxiogènes, il se débat moins longtemps. Quand vous lui donnez des campylobactéries, il se débat moins longtemps. De la même façon, on a des manips avec des lactobacilles, notamment Lactobacillus reuteri, sur des rats ou sur des hommes, qui montrent une meilleure gestion des stress et des situations compliquées quand on a ces bactéries. Alors, il ne faut pas du tout commencer à absorber ça tout de suite, parce qu'il y a peut-être des effets secondaires qu'on ne connaît pas encore. Hein. Mais clairement, il y a une construction de l'humeur qui est en partie le résultat. Je ne voudrais pas revenir à des choses trop sordides, mais quand on n'arrive pas à faire caca, on est de mauvaise humeur. Et quand on le fait trop souvent, ça met aussi de mauvaise humeur. Disons qu'il y a là quelque chose, effectivement, qui est vraiment intestin, au sens de interne, et qui participe à notre humeur. Alors même que l'humeur paraît vraiment émergente dans le cerveau, très au-dessus de la matière, et ben, elle est dans la matière fécale, en fait.
I'm curious now, because we're... Yeah, you're talking about how these bacteria affected mood, caused depression in these people. But we've also been talking about it's not a one-way street, it's an interaction. So is there, as we've been doing these, as you and other scientists have been doing these studies, have they also looked at, does my mood make me more receptive to certain kinds of bacteria? Do I create a more welcoming environment because I'm cranky, for example?
Non, non, exactement. Il y a justement une bactérie, j'essaie de trouver le nom, j'ai oublié son nom. Il y a une bactérie, je pense que c'est aussi un Escherichia coli, mais à prendre avec caution sur le nom de la bactérie, qui est particulièrement sensible à des neuromédiateurs du stress, en particulier la noradrénaline. Pourquoi ? Peut-être revenir aussi que le langage finalement qu'utilisent les bactéries, et je passe au contrôle, sont en partie des langages qu'utilisent les neurones pour communiquer entre eux. Vous avez de l'histamine, vous avez de l'acétylcholine, vous avez de la noradrénaline, et finalement on a une sorte de maintien de médiateurs de la communication qu'utilisent les bactéries pour communiquer entre elles et le système nerveux. Et en particulier, il y a une forme de colite, de maladie infectieuse due aux Escherichia coli, qui est entretenue par le stress, parce que la noradrénaline, qui est une des substances nerveuses qui est libérée par les neurones sous l'effet du stress, va être capable de favoriser le développement, la prolifération de cette bactérie. Donc finalement, ça montre aussi comment notre corps, les bactéries sont capables de nous influencer, mais aussi notre corps, nos émotions, notre humeur, et en particulier lorsqu'on a du stress, peut favoriser le développement, la prolifération de certaines souches bactériennes.
Moi, j'adore cette question qui est celle de la manipulation réciproque et notamment la manipulation de nous par les microbes. Et c'est là qu'on voit la force d'un auteur de SF par rapport à un biologiste. On en a parlé lors de la table ronde l'autre fois. Hein. C'est que les biologistes, ils ne posent pas trop la question de savoir si des petits machins peuvent manipuler le comportement des gros et notamment les forcer à accepter plus d'une certaine espèce que d'une autre ou se conduire d'une façon plus contaminante par une espèce que par une autre parce qu'ils sont ils ont des préjugés. Et finalement, cette question qui te vient spontanément, c'est typiquement une question pertinente et qu'il va falloir essayer d'étudier. C'est jusqu'à quel point il n'y a pas une partie de ces modifications de notre comportement ou de notre humeur qui, en fait, font le bénéfice de ces micro-organismes. Parce qu'on se dit, oh, bah, c'est une balle perdue, ils émettent des molécules qui influent nos neurones dans l'intestin ou qui vont même passer dans le sang et aller modifier notre système nerveux central directement. Mais on se dit, c'est un peu des balles perdues, ces modifications de l'humeur. Et pourtant, on connaît des cas où ce n'est pas du tout des balles perdues. Et dans la même table ronde, on citait l'exemple de la toxoplasmose, hein, une maladie qui, pour le coup, affecte normalement des souris et modifie leur comportement et les rend plus facilement victime des chats que finalement la toxoplasmose va réinfecter par le biais de souris contaminées. Et en fait, vous avez des trucs absolument marrants, hein, savoir que ça baisse la vigilance des souris, que ça rebranche les circuits de l'excitation sexuelle chez les mâles sur la perception de l'odeur d'urine de chat, ce qui fait que quand les mâles sentent de l'urine de chat, ils sont surexcités, ils tournent en rond, ils font moins attention à ce qu'il y a autour puisqu'ils sont moins vigilants et crac, ils se font bouffer. Bah, c'est pareil chez l'homme. On s'aperçoit que dans les accidentés de la route, il y a une surreprésentation de gens qui ont de la toxoplasmose, que quand on fait sentir des odeurs de chat ou de guépard à des gens qui sont infectés ou pas infectés, ceux qui sont infectés, les hommes surtout, trouvent ça moins désagréable que ceux qui ne sont pas infectés. Enfin, voilà. Donc ces manipulations, elles existent bel et bien dans certains cas parasitaires, mais là, on est très préparé à ce que les parasites nous modifient. Et en fait, on n'est pas préparer ce que les composants ordinaires nous modifient. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait mes études, on parlait d'organismes commensaux, ce qui veut dire, en gros, techniquement, ils sont là, mais ça fait rien, quoi. Ni du bien, ni du mal, ils sont juste là. Et c'est clair qu'ils font plus que ça et qu'il faut des fois casser les catégories qu'on a, à savoir que les petits ne peuvent pas influencer des gros, recasser tout ça pour poser des questions vertes. Et elles sont pas, cette question-là n'est pas encore vraiment posée en recherche, hein.
Ben, je sais pas, non, peut-être juste pour rebondir un peu sur la capacité de ces bactéries à influencer notre santé, mais plutôt nos maladies. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du contrôle de nos émotions. Et je pense qu'il y a aussi un axe qui se développe beaucoup sur la recherche du rôle de ces bactéries dans nos maladies, en particulier associé au vieillissement, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer. Et de plus en plus, on se rend compte aussi que ces maladies sont des maladies qui sont peut-être aussi des maladies, pas que du cerveau, mais aussi des maladies digestives, d'une part parce qu'on a des sortes de lésions miroirs chez ces patients, c'est-à-dire que les patients ont des troubles digestifs des fois bien avant que la maladie n'apparaisse. Quand on regarde finalement les neurones dans ces maladies, chez ces patients, on se rend compte qu'ils ont les mêmes lésions dans le tube digestif que dans le cerveau. Et de plus en plus, il y a des données qui montrent que finalement, certaines bactéries pourraient contribuer, induire ces lésions par des mécanismes finalement un peu très, très, très intéressants. C'est-à-dire que certaines bactéries utilisent des molécules pour avoir un avantage compétitif par rapport aux autres bactéries, mais que c'est via la formation de molécules extrêmement compactes, de fibrillaires, et que finalement il y aurait cette capacité de transfert de ces molécules fibrillaires vers l'intestin, parce qu'on sait que ces maladies neurologiques sont souvent des maladies un peu de plus en plus comme des maladies au Creutzfeldt-Jakob, vous avez entendu parler, qui est due à une maladie due à un défaut de conformation de certaines protéines, et on se rend compte que la maladie de Parkinson serait peut-être une maladie aussi de défaut de conformation de cette d'une protéine qui est l'alpha-synucléine, qui normalement joue un rôle central dans la transmission neuronale, mais lorsqu'elle est agrégée, lorsqu'elle se fusionne sous l'effet de différentes contraintes, eh bien, cette molécule qui est normalement physiologique devient pathologique, elle peut induire la mort des neurones. Et on s'est rendu compte que certaines bactéries pouvaient induire cette dimérisation de ces molécules, donc transformer cette molécule bénéfique en une molécule toxique, pourrait induire des défauts de toxicité dans le tube digestif qui pourrait ensuite, via le nerf vague dont on a entendu parler, migrer vers le cerveau et développer la maladie. Donc ça ouvre aussi de nouvelles espoirs thérapeutiques, diagnostiques, où on traiterait les maladies du cerveau en traitant le tube digestif. Mais ça reste encore effectivement des hypothèses de recherche qu'il faut explorer avant de tirer des conclusions trop hâtives. Mais ça montre bien que voilà, les bactéries peuvent avoir un lien dans des maladies du cerveau pour lesquelles on pensait que le cerveau reste un organe clos, hermétique, mais en réalité, il est totalement ouvert aux autres éléments, aux autres constituants de notre corps, mais encore plus à des environnements extérieurs.
Et il y a 3 jours, il y a un article dans Cell Report qui a montré que c'est une étude des profils de vie 1,5 million de personnes, hein, donc c'est du lourd techniquement, qui a montré que les gens à qui on a retiré l'appendice déclarent beaucoup plus tard la maladie de Parkinson. Alors il propose un lien, mais qui vaut ce qui vaut, et c'est surtout pas une raison d'enlever tout de suite l'appendice, hein, parce qu'il doit servir à d'autres choses. Et lui aussi, il est ni bon ni mauvais. Mais effectivement, il y a des liens assez inattendus, comme celui-là.
Non, voilà. Et dans le même ordre d'idée, c'est vrai qu'il y a des études qui ont montré que chez les patients qui étaient atteints d'une étude des études finlandaises, des patients qui étaient atteints d'ulcère gastrique, parce qu'avant qu'on sache que l'ulcère gastrique c'était dû à une bactérie, ce qu'on faisait chirurgicalement, on coupait le nerf vague. On s'est rendu compte que chez ces patients, cette cohorte de patients qu'on a suivi dans le temps, leur risque de développer par exemple la maladie de Parkinson était diminué par rapport à une population contrôle. Donc ce qui conforte aussi un peu ce rôle de l'intestin dans les maladies du cerveau. Donc, est-ce que ça rentre par l'estomac ou par l'appendice plus loin? Voilà. Donc, en tout cas, c'est concordant. Mais probablement, l'intestin n'est pas le seul. Là aussi, il faut le dire, il y a toutes les hypothèses aussi du nez, avec toute l'hypothèse de la grippe espagnole, parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui ne mouraient pas de la grippe espagnole en 19, qui a fait plus de morts que la Première Guerre, hein, on est dans la période des commémorations de la Première Guerre mondiale, il y a eu cette grande épidémie de grippe espagnole. Ceux qui ont survécu, ceux qui ont la chance de survivre, ils ont développé certains, en grand nombre, des syndromes qui étaient apparentés à la maladie de Parkinson, probablement parce qu'il y avait une origine virale, cette fois-ci, virus H5N1, pardon, dont vous entendez parler des fois, enfin, faut pas en avoir peur, forcément, mais il y a cette hypothèse qui serait rentrée par le nez. Donc il y a plusieurs origines, voilà, plusieurs portes d'entrée de bactéries qui vont impacter sur notre santé.
C'est un peu la guerre en permanence, hein.
C'est guerre épée, c'est ça. Voilà. Donc, faut choisir, faut trouver les bonnes.
C'est guerre épée et la plupart des bactéries sont des bonnes nouvelles. Parce que je mourrai peut-être un jour d'une maladie bactérienne, je pourrirai sans doute un jour. Ça, tout ça n'arrivera qu'une fois. Tous les jours, quand je me lève, c'est grâce à mes microbes.
Est-ce que je vous propose d'ouvrir aux questions, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des personnes qui ont envie? Alors j'en vois plusieurs. Je ne sais pas où se trouve le micro. Ah, le voilà. Soyons patients. Tenez, par exemple, ici devant peut-être. Ou alors allez là-bas. Donc on vous voit mal en fait. Donc,
oui.
Voilà, c'est ici. Merci. Allez-y.
Je peux le... Bonjour. Vous avez parlé très rapidement des probiotiques, le fait d'absorber des bactéries a priori qui ne sont pour l'instant pas présentes à l'intérieur pour améliorer notre microbiote. Est-ce que c'est vraiment opportun comme solution, puisque si elles ne sont pas présentes, c'est peut-être parce que l'environnement actuel ou du fonctionnement de notre corps ne permet pas leur développement de façon naturelle. Donc est-ce que le fait de les ingérer comme ça est important en fait?
On peut répondre à deux? Oui, tu commences. Je commence, après tu suis. Le rationnel finalement du probiotique, l'idéal finalement est basé sur le fait que certaines maladies sont dues à une absence de bactéries bénéfiques. Et donc l'idée c'est effectivement d'essayer d'introduire la bactérie qui manque pour essayer de traiter la maladie. Or souvent ces bactéries sont des bactéries qui qu'on peut avoir identifiées dans le corps humain, mais qui sont extrêmement difficiles à cultiver parce qu'elles vivent dans des conditions d'anaérobie particulières. Donc, on ne peut pas finalement les réintroduire d'une part. Donc, on a trouvé des bactéries un peu alternatives, des souches alternatives, comme par exemple Lactobacillus, Rhamnosus, XY, qui ont des effets probiotiques, des effets bénéfiques, parce que probablement ils synthétisent ou ils participent à la synthèse de médiateurs bénéfiques, soit parce qu'on va leur donner la nourriture nécessaire pour produire ces médiateurs, mais qui ne vont pas pouvoir effectivement se coloniser le tube digestif, parce qu'ils ne font pas partie de la flore naturelle, normale. Donc c'est pour ça qu'il va falloir en prendre en permanence, ce qui est aussi un argument commercial. Donc c'est sûr, si on devait en prendre qu'une fois, ben, c'est, vu le prix, voilà, il n'y aurait pas d'intérêt de les développer. Donc on est obligé de les prendre de manière répétée. Donc est-ce qu'ils ont une toxicité, à ma connaissance, pour l'organisme humain d'une manière générale, sauf dans des cas particuliers d'immunodépression particulière, il n'y a pas de toxicité. La seule toxicité que vous pouvez avoir, c'est pour votre portefeuille, parce que souvent ils sont chers. Et est-ce que leur efficacité est démontrée? Il y a des études. À nouveau, j'ai des liens d'intérêt avec des boîtes, donc voilà, je l'annonce d'emblée. Il y a des études qui sont menées pour justement valider leur efficacité dans des conditions bien particulières, et ça reste encore à être démontré, même s'il y a des études cliniques qui sont faites, qui sont souvent des études pilotes, donc sur des nombres très très limités. Et on sait de plus en plus que pour donner une valeur scientifique, on a besoin d'études sur plusieurs des cohortes très importantes de milliers de personnes. Donc les dangers ne sont pas majeurs, sauf dans des cas très particuliers, comme j'ai dit. Donc, après, est-ce qu'il y a des efficacités? Souvent, c'est rapporté dans des cas individuels. On est aussi de plus en plus dans une médecine personnalisée. Moi, je ne suis pas forcément contre. Si ça satisfait un individu, c'est pas plus mal. Voilà, c'est mon point de vue.
Moi, je pense que alors, ces probiotiques ne sont d'ailleurs pas forcément extérieurs au tube digestif. Hein. Ça peut être des bactéries qui existent dans un tube digestif. Ce n'est pas forcément des aliens par rapport aux communautés qu'on est possiblement capable d'adopter. Mais je pense que dans l'approche probiotique, il y a une grande naïveté. Ça revient à ne pas avoir compris que c'est un réseau d'interactions entre 200 et 400 espèces qui construit la santé. Donc c'est un petit peu une rustine. Vous voyez, vous avez compris qu'il y avait un, vous voyez Notre-Dame et vous dites, tiens, j'ai réparé Notre-Dame. Et vous y allez d'un petit peu de mortier en bas de la tour de droite en disant, voilà, je suis en train de réparer Notre-Dame. Bon, je ne sais pas que ce mortier ne soit pas nécessaire, mais on parle de dizaines, sinon de centaines d'espèces, et vous en introduisez très peu. Récemment, il y a deux articles de sel d'une équipe israélienne qui ont montré un résultat assez intéressant, c'est que chez l'individu sain, les probiotiques ne s'installent pas trop. Et après une antibiothérapie, et donc ils s'installent chez certains, pas chez d'autres, et ça va dans le sens d'une réponse sans doute environnement et génétique dépendante. Hein, on n'a pas le même génome, on n'est pas dans le même environnement, on ne répond pas pareil. Mais surtout, puis en plus ils n'avaient pas le même microbiote, mais surtout ils l'ont donné aussi à des gens qui avaient une antibiothérapie. Quand vous prenez des antibiotiques, vous ratiboisez quand même une partie de vos microbes, notamment intestinaux. Et là il s'est passé la chose suivante, c'est que là oui ça s'installe, ils avaient un mélange de 11 souches. Là ça s'installe, mais le problème c'est que pendant 5 mois, ça empêche le retour à la diversité habituelle, celle d'avant le traitement antibiotique, 5 mois au moins. Et quand on regarde l'expression des gènes dans les cellules intestinales, on s'aperçoit qu'elles mettent aussi plus longtemps à revenir à leur état d'expression génétique, qui est une sorte d'approximation de leur santé, ça vaut ce que ça vaut. Elles ne reviennent pas tout de suite à ça. Alors que, bien sûr, elles prennent du temps à revenir à l'état initial, mais elles reviennent plus vite sans probiotiques. Donc dans ces cas-là seulement, parce que c'est des études d'une multiplicité de cas, mais c'est que quelques cas, ça ne marche pas. Mais par contre, ils ont fait autre chose, et ça, c'est prometteur, parce que ça, c'est une approche multi-espèces. Ils ont aussi, sur certains patients, pris des sels avant l'antibiothérapie, qu'ils ont congelés, et puis qu'ils ont réadministré sous forme de petites gélules à délitement intestinal. Et ces patients-là, ils ont rétabli un microbiote ressemblant à celui d'avant et une expression génétique des cellules qui ressemble beaucoup, beaucoup plus rapidement, qui ressemble à l'état antérieur beaucoup plus rapidement. L'avenir, c'est d'amplifier nos propres microbes dans toute leur diversité. Enfin, c'est mon avis. Ça ne coûte rien parce que moi, je ne travaille pas là-dessus. Donc.
Non, mais je partage entièrement ce point de vue. C'est vrai que les probiotiques, c'était la première étape de l'outil dans la recherche, c'est ce dont on disposait. Donc c'est vrai que la recherche avance par pas, par tâtonnement. Et je suis entièrement d'accord avec la vision de... Ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est que la santé, c'est de rétablir cette diversité. La façon de rétablir une diversité, elle peut être plus basée sur l'utilisation peut-être aussi de l'aliment. C'est-à-dire c'est aussi de l'alimentation qui définit notre alimentation à nous et l'alimentation de ce qu'on va donner aux bactéries à manger pour restituer cette diversité. Et là, il y a un terme comme les prébiotiques. Donc ce n'est pas des pros, mais des prébiotiques qui sont aussi de plus en plus considérés comme un peu comme l'engrais qui va redonner la diversité à votre écosystème. Et c'est vrai qu'il y a... Il y a cette belle image dans un article de Nature qui essaie d'illustrer finalement quelles sont les stratégies thérapeutiques qu'on peut faire face à une désertification un peu de notre microbiote et qu'on a finalement les mêmes stratégies qu'utilise l'agriculteur. Hein. C'est-à-dire vous avez soit vous ensemencez après un passage d'herbicide sur un champ, et bien vous avez des mauvaises herbes qui vont pousser, vous ne retrouvez pas la diversité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on sème les herbes qui étaient déficientes, c'est un peu l'équivalent du probiotique, soit les souches qui ont été détruites par les herbicides, eh bien, elles sont dans un état dormant, on peut les réactiver un peu. Voilà. Et donc là, on peut donner des prébiotiques, ou ce que vous évoquiez après, c'est effectivement d'aller dans le champ du voisin qui est plus riche, vous piquez son herbe, vous la semez à sa place, et faire de la greffe fécale, la transplantation fécale, c'est vous transplanter un autre organe, un peu. C'est des vraies approches de transplantation qui sont soumises même presque aux mêmes règles actuellement que la transplantation, où vous transportez votre fécès, souvent de votre conjoint. Donc ça rapproche, ça permet de rapprocher, de tisser des liens encore plus forts entre conjoints. Ou même, il y a des boîtes aux États-Unis, je pense, qui proposent ça, qui non seulement vont vous guérir, mais qui vont aussi vous rendre intelligent. Pourquoi? Parce que les donneurs, c'est souvent des jeunes étudiants de Harvard qui ont donné leur sel dans cette entreprise, dans cette boîte. Et donc ça vous guérit, ça vous rend plus intelligent. Donc vous êtes gagnant.
Il y a des manips qui ont été faites sur des poissons. Je ne me rappelle plus le nom du poisson, le petit poisson, qui consiste à faire une antibiothérapie sur des poissons d'âge moyen et de les réinfecter avec des bactéries du tube digestif de poissons d'âge moyen, ils ont une longévité normale, de vieux poissons, ça réduit un peu leur longévité, ou de jeunes poissons, et ça peut plus que doubler, alors c'est des poissons, hein. C'est pas le moment d'aller manger les fesses de n'importe qui, hein. Mais ça peut jusque doubler leur longévité.
Alors, ça a été fait... Non, mais c'est exactement la même expérience qui a été faite chez la souris.
Ça marche chez nous, malheureusement.
Non. Enfin, la souris est un peu plus proche, mais ça s'arrête là.
On est en pleine science-fiction, je plaisante. Une autre question?
Oui, merci. Merci pour cette conférence qui était passionnante. J'ai une question justement concernant l'alimentation, parce que vous avez prononcé le mot à l'instant. On va plutôt vers une société dite hygiéniste, notamment sous l'influence des anglo-saxons, avec une suppression des bactéries présentes dans les aliments, yaourt, fromage, etc. Bon, évidemment, je suis française, donc je suis peut-être de parti pris. Je voudrais avoir votre sentiment par rapport à ça et sur l'évolution potentielle que ça peut avoir par rapport à notre écosystème et aux différentes interactions que vous avez évoquées. Merci.
I mean, obviously, what we as Americans need to do is come visit France more often and eat more of your bacteria. Because I can tell you, I've come here, I am loving the food, and I am in a much better mood now that I am in France and not in the United States 3 days before our elections.
Oui, alors ça, c'est vrai. Alors, il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'anglois, hein, de l'anglais. On arrive très bien nous-mêmes à générer des règlements sanitaires aberrants. Par exemple, savez-vous que dans les fromages au lait cru, comme le lait maintenant, il est trait sur des trayons complètement nettoyés et en plus, il passe dans des tubulures qui sont rincées deux fois par jour avec des acides et des bases, eh ben, il n'y a pas de bactéries lactiques dans ce lait cru. Donc tous les fromages ou les crus que vous mangez, il faut inoculer des bactéries lactiques. Alors qu'historiquement, le fromage, on n'inoculait rien du tout. On le foutait dans une galetouse et puis il faisait du fromage. Quoi. Voilà. Elles étaient là. Et même aujourd'hui, je vois donc, dans les Saint-Nectaire fermiers, que je connais bien parce que j'enseigne pas mal dans les caves de Saint-Nectaire à mes étudiants, hein, eh bien, on demande aujourd'hui de carreler ces caves parce que ce n'est pas propre, ces caves avec tous les machins noirâtres sur sont taillés dans la roche. Hein. Donc on arrive nous-mêmes à générer très bien cet hygiénisme. Cet hygiénisme, il s'est déroulé en deux phases. Il y en a une qu'on méconnaît. Hein. Il y a une phase qu'on connaît bien, c'est l'hygiène médicale qui dit qu'il faut stériliser, il faut nettoyer. Et ça, effectivement, c'est une façon de se contaminer moins et la peau et le tube digestif et tous les orifices, d'ailleurs. Hein. Bon. Il y en a une autre qui est méconnue. Nos cultures, nos civilisations ont vachement recruté les microbes pour conserver les aliments et pour enrichir leurs valeurs vitaminiques et pour avoir présents des microbes qui empêchent le développement des indésirables. C'est les fromages, c'est la soucroute, c'est le saucisson, car c'est fermenté le saucisson. C'est le pinard hein, ou la bière qui sont une façon d'avoir des liquides sains. Parce que les eaux, historiquement, elles étaient contaminées par les fesses. Donc il valait mieux boire des liquides légèrement alcoolisés. C'était beaucoup plus sain que de boire l'eau qui était disponible à côté du village. Bon, donc on a développé, on a recruté sans connaître les microbes, des tas de façons de faire qui étaient microbiennes. Et puis est arrivé le 19e. Et là, c'est la France, pour le coup, qui a foutu le bordel. La cuisine française, le fleuron. Bon, d'accord, il reste des frometons, des trucs comme ça. Mais essentiellement, nous avons remplacé la cuisine paysanne, qui était des aliments fermentés, des trucs de plouc. On a remplacé ça par des aliments cuits. Et la cuisine française dont nous sommes si fiers est la négation de nos racines paysannes où tout était fermenté, conservé comme on pouvait hein, et où quand on faisait du feu, c'était pas forcément pour faire la bouffe. Hein. Et donc on a eu aussi ce moment où on s'est séparé, nous, culturellement, fortement, nous français, hein, de la présence microbienne, cette présence culturelle dans les aliments fermentés. Je vous donne un exemple, le cornichon sous forme de pickles, hein, je pense que vous avez tous goûté ça, et ben, c'est un dévoiement complet du cornichon historique qu'on a encore dans les pays de l'Est, qui est un cornichon fermenté, en lactofermentation, et qui est absolument délicieux. Et c'était plus simple, plus rapide, plus propre, parce qu'il n'y avait pas le dépôt de bactéries au fond, de mettre directement du vinaigre sur le cornichon que d'attendre qu'il fermente. Et on a perdu, par exemple, la tradition du cornichon fermenté, et c'est bête, parce que c'est super bon.
Enfin, je partage totalement cet avis. Effectivement, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que souvent, la diversité de notre microbiote intestinal, c'est un élément nécessaire pour que certains aliments puissent avoir leurs effets bénéfiques sur notre santé. Donc, par exemple, vous prenez l'exemple du curcuma. Vous avez tous entendu parler du curcuma qui a des effets protecteurs, antioxydants. Et on se rend compte de plus en plus que les aliments agissent de manière double. À la fois, ils sont capables d'enrichir notre microbiote, dans le cas du curcuma, vers lui induire une diversité d'un microbiote qui est plutôt une tendance anti-inflammatoire, d'accord, donc protectrice de par les espèces qui permet à développer un peu, c'est l'équivalent du prébiotique, mais aussi que ce curcuma est métabolisé par les bactéries, est mangé par les bactéries et produit des substances qui, elles, par exemple, ont des effets neuroprotecteurs. Donc, tout ça pour montrer que l'alimentation est un élément essentiel de la diversité de notre microbiote humain, que ce soit l'alimentation, et ça commence très tôt dans la vie, c'est déjà dès la fécondation, c'est via ce que mange notre mère, puisque notre mère nous donne à manger via le lait maternel, hein, qui est quand même un élément standard extrêmement important dans la programmation de notre microbiote, et après, tout au long de la vie, c'est finalement manger une diversité d'aliments pour satisfaire finalement la nourriture, non pas de nous, mais aussi de notre microbe, lui donner à manger cette diversité dont il a besoin.
Merci. Est-ce qu'il y a une question ? Ça sera, oui, désolé, ça sera probablement la dernière parce qu'il nous reste 4 minutes.
Bonjour. J'ai une question qui sera peut-être plus particulièrement dirigée à Monsieur Sellos. J'ai cru entendre qu'il y avait un phénomène qui s'appelait la synchronisation microbienne, qui est comme quand on vit avec des personnes dans le même environnement, les diverses populations de bactéries, de champignons, de levures qu'on a sur nous donc se rapprochent. Et je voulais savoir si ça avait été étudié de façon plus approfondie et au niveau peut-être des conséquences que ça pouvait avoir sur la santé, la psychologie, etc., que ce soit au sein d'une famille ou dans les populations carcérales ou voilà, avec des gens qui vivent dans des milieux très proches. Et donc cette harmonisation ou synchronisation qui se fait... Voilà.
C'est-à-dire que nos bactéries viennent de notre environnement. Première chose, donc quand on est dans l'environnement de quelqu'un, effectivement, il devient source de contamination. Deuxièmement, les bactéries qui s'installent ou pas, ça dépend de notre mode de vie. Bon, type les rythmes de douche pour la peau... les types de choses que l'on mange pour les bactéries du tube digestif, et le fait de nouveau de vivre ensemble, ça rapproche les modes de vie. Et on s'aperçoit que, effectivement, quand on prend deux individus, il y a deux grands facteurs qui prédisposent à avoir des microbiotes semblables. Le premier, c'est d'être génétiquement proche. On voit que, par exemple, même s'ils ne vivent pas ensemble, des jumeaux homozygotes, hein, vraiment génétiquement identiques, ont tendance à avoir des bactéries plus similaires que deux individus pris au hasard. Mais aussi, le fait de vivre ensemble, les comportements. Et là, on voit que des gens, même génétiquement différents, quand ils vivent ensemble, ils partagent plus, notamment dans un couple, par exemple, ils partagent plus de microbes que n'en partagent deux individus pris au hasard dans la population. Mais ça revient juste à dire que l'autre fait partie de notre environnement et que nos relations avec les autres sont aussi des relations microbiennes. C'est indubitablement vrai. Je ne connaissais pas le mot de synchronisation. Mais c'est juste que ces deux écosystèmes-là sont plus en contact qu'ils ne le sont avec d'autres.
Je pense que, non, exactement. Il y a un des éléments qui induit cette synchronisation, c'est effectivement parce qu'ils partagent ce qu'on a dit. On en revient toujours à l'alimentation, mais peut-être dans le même environnement, ils ont le même régime, donc ils nourrissent aussi, ils permettent aussi aux mêmes bactéries de se développer via des aspects tels que la nutrition, qui reste quand même un élément fondamentale dans la programmation de notre microbiote, non seulement au niveau des espèces, mais aussi surtout au niveau de ce qu'ils produisent, ce qu'ils vont être capables d'influencer l'hôte, donc nous.
J'avais, en vous écoutant, une image un petit peu folle qui était, quand on parle de recherche pour la police, de l'espionnage, etc., peut-être qu'on en viendra un jour à analyser les microbiotes pour savoir qui a parlé avec qui. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup moins bien qu'avant. Il y a eu des études sur des tribus non contactées, c'est-à-dire des tribus qui ne sont pas du tout en contact avec l'occidentalisation et la globalisation. Et on s'aperçoit que là, les gens, non seulement ils ont beaucoup plus par tête d'individus, en gros un facteur 2, on va dire, de diversité bactérienne, mais en plus, d'un individu à l'autre, il y a très peu de différence. Alors que nous, si on prend 20 personnes dans cette salle, 80% des bactéries qu'on va trouver, 80% des espèces, on les trouvera que sur une de ces 20 personnes. Nous sommes devenus des îles à cause de notre hygiène. Et oui, j'aime souvent l'image que nous sommes des sortes de vaisseaux spatiaux qui permettent à ces micro-organismes de survivre dans un environnement complètement hostile, qui est l'air ambiant. Et il fut une époque où ces vaisseaux spatiaux communiquaient beaucoup plus que maintenant. Maintenant, ils ne se fréquentent plus, ils ne se touchent plus guère, et leurs habitants ont du mal à passer de l'un à l'autre, sauf vie de couple. Et encore.
Ce sera les mots de la fin. Je voudrais les remercier, vous remercier. Vous pourrez prolonger la discussion avec eux à la librairie, puisqu'ils vont être en signature. Je profite de ce moment pour remercier aussi les traducteurs auxquels on pense peu, mais qui nous permettent de communiquer avec fluidité.